Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 28 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloulia. Les titres pour commencer, le président français Emmanuel Macron en Guinée-Bissau après le Bénin et le Cameroun. Au Mali, au moins 15 soldats et 3 civils tués dans 3 attaques coordonnées. En République démocratique du Congo, déploiement massif des forces de sécurité en réaction aux manifestations meurtrières contre la MONUSCO dans l'est du pays. Les 3 ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales fonctionnent à nouveau. Ici aux États-Unis, prison ferme pour 2 policiers restés passifs pendant le meurtre de George Floyd. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Poursuivant sa tournée africaine, le président français Emmanuel Macron est arrivé en Guinée-Bissau après une journée passée au Bénin pour promouvoir sa nouvelle vision des relations entre la France et l'Afrique. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
La justice béninoise a remis en liberté hier 30 opposants arrêtés durant la présidentielle d'avril 2021. Cette remise en liberté intervient au moment de la visite de Macron à Cotonou, qui a eu un tête-à-tête avec le président Patrice Talon. Au cours d'une conférence de presse conjointe, M. Talon a affirmé qu'il n'y avait pas de détenus politiques au Bénin. Pour sa part, M. Macron n'a fait aucune mention des condamnations ou de recul démocratique. Les 2 chefs de l'État ont affirmé avoir abordé les sujets politiques lors de leurs échanges privés, sans donner plus de détails. Emmanuel Macron a aussi assuré que la France serait toujours en soutien du Bénin pour sa sécurité, pour faire face à la multiplication d'attaques djihadistes dans le nord du pays. Après le Bénin, le président français s'est rendu en Guinée-Bissau, dont le président Oumaro Sissoko Embalo vient de prendre la présidence de la CEDEAO.
Pendant sa visite au Bénin, une ex-colonie française, M. Macron a accusé la Russie d'être l'une des dernières puissances impériales coloniales et de mener une nouvelle forme de guerre hybride dans le monde. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, également en tournée en Afrique, a appelé mercredi à Addis Abeba les pays en développement, notamment africains, à ne pas soutenir ce qu'il a appelé un monde régi par les États-Unis, les avertissant qu'ils pourraient être les prochains à subir les foudres américaines. M. Lavrov s'adressait à un parterre de diplomates majoritairement africains à l'ambassade de Russie en Éthiopie, dernière étape de cette tournée qu'il a conduit aussi en Égypte, au Congo-Brazzaville et en Ouganda. Au moins 15 soldats maliens et 3 civils ont été tués mercredi dans 3 attaques coordonnées et attribuées à des terroristes, ce qui porte à 11 leur nombre en moins d'une semaine au Mali. Ces attaques interviennent 5 jours après celles de Kati, au cœur de l'appareil militaire malien, revendiqué par les djihadistes de la Katiba Massina, affiliés à Al-Qaïda. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités ont renforcé la sécurité en déployant des policiers et militaires au 3e jour des manifestations contre la mission des Nations Unies. Au moins 15 personnes, dont 3 casques bleus, ont été tuées. Le point avec Abdourahmane Dia.
Des voix se sont élevées en RDC et à l'étranger pour condamner ces actes et appeler à l'apaisement. Dans un communiqué, la conférence épiscopale de la RDC condamne fermement toute violence qui a prévalu durant les manifestations. Mais elle dit aussi comprendre la colère des compatriotes qui participent à ces manifestations et comme eux, elle estime que le gouvernement et la MONUSCO ont montré leurs limites dans leur mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des groupes armés. La France aussi condamne les attaques contre la MONUSCO. Nous appelons retour au calme et à ce que les responsables des attaques soient poursuivis et à ce que des enquêtes soient menées pour déterminer les causes des décès, a dit une porte-parole du Quai d'Orsay. Les autorités congolaises ont assuré mardi qu'une enquête conjointe avec la mission onusienne sera menée pour établir les responsabilités. Les manifestants accusent les casques bleus, qui doivent maintenir la paix, d'être inefficaces face à plusieurs groupes armés qui déciment les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu depuis plusieurs décennies.
Quatre personnes ont été tuées mercredi à Uvira, dans le Sud Kivu, par la chute d'un câble électrique touché par des tirs de sommation des forces de sécurité lors d'un nouveau rassemblement hostile à la mission des Nations Unies dans le pays, a rapporté Reuters, qui cite les autorités. Le gouverneur de la province, Théo Ngwabidje Kassi, a dit avoir demandé des enquêtes pour déterminer si la balle ayant coupé un câble électrique avait été tirée par la MONUSCO ou par les forces congolaises. Le calme a été rétabli en milieu d'après-midi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les trois ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales ont recommencé mercredi à fonctionner, tandis que l'armée ukrainienne a en partie détruit un pont d'importance stratégique dans la région méridionale de Kherson, occupé par les Russes et que les forces de Kiev cherchent à reprendre. Le gouvernement ukrainien s'attend à ce que les premiers chargements puissent quitter dès cette semaine les ports de la mer Noire, où ils étaient bloqués depuis le début de l'invasion russe le 24 février, sur fond de flambée des prix des denrées alimentaires à travers le monde. Ici aux États-Unis, la justice a condamné hier deux policiers à la prison ferme pour être restés passifs pendant le meurtre de l'Africain-américain George Floyd, un drame qui avait suscité des manifestations monstres en 2020. Le point avec Nanit Talani.
Le juge fédéral Paul Magnuson, d'un tribunal de Saint-Paul dans le Minnesota, a prononcé des peines de 3 ans de prison pour Alexander Kwang, 28 ans, et 3 ans et demi pour Tuthao, 36 ans, tous deux reconnus coupables en février de violation des droits civiques de George Floyd. Un troisième policier, Thomas Lane, a écopé d'une peine de 2 ans et demi de prison la semaine dernière. Il était le seul à avoir suggéré de placer Floyd sur son flanc et d'avoir tenté de le réanimer à l'arrivée des secours. Les trois hommes étaient accusés par la justice fédérale de ne pas avoir apporté secours à l'Africain-américain lors de son agonie sous le genou de leur collègue Derek Chauvin. Ce dernier, qui avait maintenu la pression sur le cou de Floyd pendant près de 10 minutes, a écopé de 21 ans de prison. Parallèlement, la justice du Minnesota a condamné Derek Chauvin à 22 ans et demi de prison et a inculpé ses trois collègues de complicité de meurtre.
Le président américain Joe Biden a salué mercredi une avancée majeure vers l'approbation au Congrès de ses projets sur la santé et sur la crise climatique, considérés auparavant comme presque mort-née, après que des élus démocrates ont réussi à s'entendre. Il a fallu un compromis entre le sénateur conservateur Joe Manchin et le chef de file des démocrates au Sénat Chuck Schumer, sur un projet à plusieurs centaines de milliards de dollars. Par ailleurs, le président Biden, testé négatif au COVID-19 et de retour dans la vie publique après 5 jours de confinement, a appelé mercredi les Américains à suivre son exemple pour mieux se protéger de la pandémie. La pandémie de COVID-19 et les autres crises mondiales actuelles ont eu pour conséquence de freiner les progrès faits dans la lutte contre le sida, a alerté mercredi l'ONU-SIDA dans son rapport annuel intitulé « Dangers publiés » à l'occasion de l'ouverture de la conférence internationale sur le sida se tenant à Montréal, au Canada. Face à la flambée de la variole du singe, l'OMS a clairement conseillé mercredi au groupe le plus touché par la maladie, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, de réduire le nombre de partenaires sexuels. Au Nicaragua, la police a condamné mercredi à 10 ans de prison Yubrang Shuazo, un dirigeant de l'opposition qui avait été l'un des meneurs des protestations contre le gouvernement de Daniel Ortega en 2018, a rapporté son mouvement politique. Il fait partie des 190 opposants détenus en prison ou en résidence surveillée au Nicaragua, selon des organisations de défense des droits de l'homme. La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Au Cameroun, 41% des passages à niveau sont clandestins, a révélé lundi le ministère des Transports. Sur les 217 passages à niveau recensés sur le réseau ferroviaire, 90 sont clandestins. Cette situation, explique le ministère, perturbe très souvent les circulations routières et ferroviaires et est à l'origine de plusieurs accidents graves. Au cours de la seule année 2020, pas moins de 109 incidents ont été enregistrés sur la voie ferrée dans le pays. Le réchauffement climatique et les collectionneurs de plantes rares sont en train de décimer les plantes succulentes en Afrique du Sud, ont alerté mercredi des chercheurs, avertissant que des centaines d'espèces étaient en danger d'extinction. Selon l'Institut sud-africain de la biodiversité, ces trois dernières années, les végétaux confisqués aux trafiquants de plantes par les forces de l'ordre ont augmenté chaque année de plus de 250%. La priorité économique mondiale doit être de faire ralentir l'inflation et éviter à tout prix qu'elle soit totalement hors de contrôle, a souligné l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourincha, dans un entretien avec l'AFP.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football pour commencer, on a des nouvelles de Sébastien Allaire.
Oui, le Borussia Dortmund devra se passer de sa nouvelle recrue pendant plusieurs mois. Le club allemand indique que Halle est atteint d'une tumeur au testicule et précise qu'il a été opéré avec succès. La semaine dernière, l'attaquant ivoirien avait appris le diagnostic. La semaine dernière, lors du stage d'été des Jaunes et Noirs en Suisse, le joueur de 28 ans vient de rejoindre le vice-champion d'Allemagne en provenance de l'Ajax Amsterdam pour environ 31 millions d'euros.
Football toujours, les Sud-Africaines, championnes d'Afrique, ont été reçues par le président Cyril Ramaphosa.
Chose promise, chose due, dans une ambiance rythmée au siège du gouvernement à Pretoria, l'entraîneur des Bayana Bayana, Désiré Ellis, a remis le trophée de la CAN féminine au président Cyril Ramaphosa.
I'd like to say that today our hearts are filled with pride.
Je voudrais dire qu'aujourd'hui nos cœurs sont remplis de fierté.
With a great deal of joy.
Ils sont pleins à craquer de joie parce que vous, les Banyana Banyana, avez promis que vous ramèneriez la coupe à la maison et vous l'avez fait. La coupe est ici, elle n'est dans aucun autre pays du continent. C'est ici en Afrique du Sud, elle nous appartient.
Where it belongs.
Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Après 5 finales perdues, l'Afrique du Sud a remporté samedi à Rabat sa première CAN féminine avec un total de 6 victoires en 6 matchs dans cette compétition. Le parcours des dames a ravivé le débat sur l'égalité des salaires entre les Bayana Bayana et leurs homologues masculins. Selon la presse, elles ont touché pour leur titre des primes inférieures à celles perçues par les hommes pour un résultat inférieur un quart de finale à la CAN 2019. Le président Ramaphosa a ordonné d'augmenter la prime des joueuses et plaidé en faveur de l'égalité des salaires entre les footballeuses et les footballeurs internationaux du pays.
Les États-Unis ont fait une offre conséquente à la Russie pour faciliter la libération de la basketteuse Brittney Griner et de l'ex-marine Paul Whelan, emprisonné en Russie, a révélé mercredi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Les médias américains parlent d'échanges de prisonniers. Pour sa part, Griner dit ne pas avoir eu l'intention d'introduire de la drogue en Russie.
Oui, la star américaine du basket féminin a affirmé hier, lors de son procès, près de Moscou, avoir par erreur apporté du cannabis médicinal en Russie. Jugée depuis début juillet, elle ajoute n'avoir jamais eu l'intention de faire de la contrebande de drogue. La joueuse des Phoenix Mercury est venue en Russie en février pour y jouer durant l'intersaison américaine. C'est à son arrivée à l'aéroport Moscovitz qu'elle a été arrêtée en possession, selon l'accusation, de vapoteuse et d'un liquide à base de cannabis. La joueuse double championne olympique a expliqué à la cour qu'elle utilisait le cannabis médicinal de façon légale aux États-Unis, sur ordonnance et lors de ses jours de repos, pour soulager de multiples douleurs physiques liées à sa pratique intensive du basket. Brittney Griner risque jusqu'à 10 ans de prison.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, deuxième jour mercredi de la manifestation des fonctionnaires contre la fermeture des universités publiques suite à une grève des enseignants du supérieur déclenchée il y a 5 mois. Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Des centaines de manifestants ont marché à Abuja vers le siège du Parlement fédéral, chantant des slogans anti-gouvernementaux pour ce deuxième jour d'une manifestation nationale prévue sur 3 jours contre la fermeture des universités publiques nigériennes. Le président de la centrale syndicale du Nigeria, Ayuba Wabba.
La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, camarades, est connue de tous les Nigériens. Les enfants des travailleurs, les enfants des infortunés sont à la maison depuis 5 mois. Personne ne s'intéresse. Aucune raison ne peut justifier le fait que les enfants des travailleurs et des pauvres restent à la maison pour un seul jour.
Mardi, les manifestations se sont déroulées simultanément dans de nombreux États du Nigeria. Depuis février, les universités publiques ont fermé leurs portes en raison de désaccords opposant le syndicat des enseignants des universités publiques au gouvernement fédéral. La colère des enseignants est liée au salaire impayé et au manque de financement pour le développement des universités publiques. Samuel Emmanuel, président du syndicat des enseignants de l'Université de l'État de Nasarawa.
La grève affecte la profession d'enseignant. Elle affecte aussi mon bien-être et tout ce qui concerne le secteur de l'éducation au Nigeria. Elle affecte les étudiants et les parents. Certains étudiants ont été expulsés des campus universitaires après avoir payé pour leur dortoir, mais ne vont plus en classe. La grève affecte aussi l'économie du système éducatif et celle du pays dans tous les domaines.
La centrale syndicale des travailleurs nigériens accuse les autorités de refuser de donner la priorité aux négociations avec les enseignants grévistes. La réaction de ce jeune étudiant qui a participé à la manifestation d'Abuja, Idriss Jonas.
Cette nouvelle grève des enseignants nous affecte et particulièrement moi de diverses manières. Je suis présentement à la maison sans rien faire, sauf des commissions pour mes parents. Je souhaiterais terminer mes études rapidement. Certains de nos amis étudiants qui devraient terminer leurs études en 2020 attendent toujours à la maison à cause de ces multiples grèves.
Pourtant, dans un accord en 2009, les autorités fédérales avaient promis de donner plus de fonds aux universités et leur accorder plus d'autonomie. Des gouvernements successifs n'ont pas tenu leurs promesses et le syndicat des enseignants exige maintenant l'application de cet accord. Le gouvernement invoque le manque de fonds pour payer plus de 500 millions de dollars prévus dans l'accord de 2009. Ce que rejette la centrale syndicale qui accuse le gouvernement de négliger le secteur de l'éducation. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Les ventes en ligne ont explosé pendant la pandémie de COVID-19, y compris dans certaines régions du continent africain où les analystes du secteur affirment que le commerce en ligne devrait augmenter de plus de la moitié au cours des 3 prochaines années. Le potentiel du marché en ligne en Afrique est cependant confronté à de nombreux défis. Linda Givtash, correspondante de la VOA à Johannesburg, fait le point. Le récit est de Dili Diko.
Les petites entreprises, comme ce détaillant de jeans fait sur mesure à Johannesburg, se préparent à un boom du commerce en ligne. Certaines régions d'Afrique ont connu une croissance à 2 chiffres des achats en ligne d'une année à l'autre, avec plus de 334 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Écoutons Chepo Molala, fondateur de la marque Chepo Jeans.
La marque Chepo a vraiment commencé sur les réseaux sociaux. Avant même d'avoir des magasins, nous étions en ligne. Donc j'ai remarqué cette croissance depuis le premier jour.
Lancée en 2015, la marque a survécu à la pandémie de coronavirus grâce à sa boutique en ligne. Les résultats en ligne ont été maintenus même après la réouverture des magasins. Les experts disent qu'il s'agit d'une tendance liée en grande partie à l'accroissement de l'accès aux smartphones en Afrique. Mercy Mpingangira est directrice à l'Institut des systèmes informatiques et de la consommation.
La pénétration d'Internet était faible dans les premières années du commerce électronique et à cause de cela, les niveaux de commerce électronique étaient bas. Mais maintenant, avec l'arrivée de la téléphonie mobile, les choses ont changé. Désormais, plus de 80% des personnes sur le continent ont accès au téléphone portable, ce qui leur permet d'accéder à des produits en ligne et de pouvoir effectuer des transactions en ligne.
Mercy Mpingangira affirme que d'autres défis continuent d'entraver le commerce électronique en Afrique. De nombreuses personnes n'utilisent pas les systèmes bancaires, ce qui complique les paiements numériques. Il y a aussi des problèmes logistiques avec les livraisons, le courrier envoyé de façon traditionnelle est lent et peu pratique. Craig Pitcher est directeur des opérations chez The Courier Guy, une entreprise spécialisée dans l'envoi de colis.
Le service postal n'est pas très pratique, donc si vous regardez le nombre d'entreprises offrant des envois de colis, la communauté n'a que l'embarras du choix en termes de services qu'elle peut utiliser. Ainsi, l'un des domaines dans lequel nous avons innové avec la croissance du commerce électronique est l'introduction de casiers électroniques pour récupérer ou déposer un colis.
Même si de plus en plus d'Africains font des achats en ligne, les experts affirment que cette tendance n'a pas remplacé l'expérience d'aller physiquement en magasin. Écoutons à nouveau Chepo Molala, fondateur de la marque Chepo Jeans.
Du point de vue de la croissance, je pense que nos magasins, les magasins où l'on peut se rendre en personne, se portent pour l'instant nettement mieux que ceux en ligne. Mais la présence digitale nous a donné une plateforme pour pousser des clients à venir toucher nos produits, les sentir en personne. Cela nous a également permis de mettre en avant notre expérience de jeans sur mesure.
Alors que certains consommateurs préféreront toujours un magasin en brique comme celui-ci, le commerce électronique a donné aux petites entreprises une manière novatrice d'atteindre de nouveaux clients.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En dépit des avertissements de Greenpeace et d'autres ONG locales et internationales sur les conséquences écologiques en RDC, Kinshasa a annoncé vouloir lancer des appels d'offres à la fin du mois de juillet afin d'attribuer à des tiers des titres d'exploitation d'un grand nombre de ces blocs pétroliers et gaziers situés dans les aires protégées. Eddy Issango a joint à Kinshasa le ministre des Hydrocarbures, Didier Boundimbou.
Nous avons lancé des appels pour l'attribution des droits des hydrocarbures, ce qui veut dire que nous allons attribuer des titres et signer des contrats avec des futurs partenaires pour pouvoir exploiter nos blocs pétroliers. Donc ce n'est pas une vente aux enchères, ce n'est même pas une vente des blocs. C'est pour pouvoir signer des contrats de partage de production qui va lier l'État congolais avec les opérateurs qui viendront et que et pour qu'il y ait, avec le par souci de transparence voulu par le chef de l'État et notre loi sur les hydrocarbures, nous sommes obligés de passer par des appels d'offres. Comme ça, les opérateurs pourront se soumissionner, on va choisir le meilleur. Il n'y a pas de vente aux enchères, il n'y a pas de vente de blocs pétroliers.
Plusieurs ONG, parmi lesquelles Greenpeace, mettent en garde que cette opération pourrait mettre en danger aussi bien les aires protégées en RDC que les populations autochtones de ces zones-là.
Non, donc moi, personne ne voit pas les choses de la même façon parce que s'il y a quelque chose qui met en danger les zones protégées, c'est le M23 et tous ces groupes rebelles qui sont au niveau du parc d'Irunga ou dans toutes ces zones-là. S'il y a quelque chose qui met les populations environnantes en danger, ce sont ces groupes rebelles qui sont dans ces zones protégées. Et là, on ne voit ni Greenpeace ni personne parler, le gouvernement se bat tout seul. Donc je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est plutôt pour essayer d'augmenter le social du peuple congolais, augmenter le social des peuples autochtones de là où sera exploité ces gisements.
Pourtant, la RDC a pris des engagements pour continuer à être en fait les pays solutions, c'est-à-dire produire moins de carbone ou plutôt absorber plus de carbone dans le monde.
La RDC n'est pas rentrée en arrière par rapport à ses engagements. La RDC, déjà, de par notre constitution, les lois au niveau international prennent les dessus sur nos lois. Donc il y a une réalité, c'est que nous ne sommes pas rentrés en arrière. On a promis de faire un grand reboisement de plus de 800 000 hectares. Le travail a déjà commencé, nous ne sommes pas rentrés en arrière. On a promis de diminuer tout ce qu'on émet comme gaz à effet de serre de 25% jusqu'en 2030. On y tient, on va continuer à le faire. Et exploiter notre pétrole ne veut pas dire que nous allons décaper la terre ou bousiller tout ce qu'il y a comme tourbière, pas du tout. Aujourd'hui, la technologie a changé. Il y a 10-15 ans, dans certaines zones, on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, la technologie a changé. Et aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle de ces zones protégées, c'est peut-être que 10% d'un bloc. Parce que nos blocs, il y en a qui sont plus grands que la Belgique. Admettons que ce bloc-là, le bloc 4, c'est la Belgique, vous pouvez exploiter à Bruxelles. Si les tourbières se trouvent à Liège, il n'y a pas d'impact. Ou si ça se trouve à Arlon, il n'y a pas d'impact. Donc, il ne faut pas qu'on arrête de faire peur aux gens. Je pense qu'on va explorer, exploiter et les choses vont bien se passer. Il n'y aura pas de retour par rapport à la biodiversité, pas du tout.
Et vous ne craignez pas qu'en retour, le Congo ne puisse pas bénéficier de l'argent qui est payé pour les taux d'absorption de, justement de carbone dans le monde?
Cette histoire,
parce que le Congo espérait quand même.
A commencé il y a déjà des décennies, le Congo n'a jamais reçu un seul euro.
Didier Boundimbou, ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Le dollar américain connaît une forte hausse depuis quelques semaines, galvanisée par la perspective d'une politique monétaire encore plus stricte ici aux États-Unis pour juguler l'inflation qui a atteint de nouveaux sommets en juin dernier, allant jusqu'à 9,1% sur un an, jamais atteint depuis novembre 1981. La hausse du dollar par rapport à l'euro entraîne évidemment des conséquences sur les marchés mondiaux et en Afrique. John Lyndon s'est entretenu avec Idriss Lingué Nyoya, rédacteur en chef de l'agence Ecofin.
Une hausse qui a débuté depuis aujourd'hui 12 mois et qui est allée progressivement. Mais c'est depuis quelques semaines qu'on ressent vraiment les effets de la hausse du dollar, déjà sur l'économie américaine, mais aussi sur l'ensemble des économies du monde. Déjà, il faut dire que à un moment donné, notamment pendant la COVID, la plupart des économies du monde a été mise à l'arrêt. Les échanges internationaux ont été ramenés à leur stricte nécessité. Mais une fois que les restrictions ont été levées et que l'économie mondiale a recommencé à démarrer, il y a eu deux choses. La première chose, c'est que tout le monde a voulu avoir des dollars parce que le dollar est la monnaie de paiement international. On a vu beaucoup de pays aller sur les marchés des eurobonds ou alors des dollars bonds, lever des fonds en dollars, et forcément parce qu'il y avait une importante demande en dollars, la valeur du dollar a augmenté. C'est le principe même de l'offre et de la demande. Et le deuxième effet qui a dopé la hausse du dollar, c'est que tout le monde voulait redémarrer l'économie mondiale en même temps. Et donc, tout le monde était en compétition pour le peu de biens qui étaient encore disponibles sur le marché mondial. Et du coup, les prix de ces produits ont augmenté. Et comme 60% du marché mondial est libellé en dollars, la demande du dollar a encore été plus aggravée.
Et pour les pays africains, la hausse du dollar, vous sembliez le dire tout à l'heure, signifie aussi qu'ils devront payer plus cher leurs importations. Comment atténuer les effets d'une telle situation dans les économies du continent?
Malheureusement, on ne peut pas atténuer les effets à court terme. C'est une situation conjoncturelle grave. La solution, tout le monde le sait, il faudrait que les pays du G20 libèrent complètement les DTS qu'ils avaient reçus lors de la nouvelle allocation par le FMI de l'année dernière et qu'une part importante de ces DTS soit accordée aux pays africains pour gérer la partie de leur balance de paiement qui supporte des investissements productifs. C'est-à-dire que si, par exemple, les pays du G20 allouent 100 milliards de dollars de DTS aux pays africains, cet argent doit aller vers des investissements productifs. Des investissements qui permettent, par exemple, de finaliser une raffinerie qui n'obligera plus les pays à importer du pétrole.
Idriss Lingué Nyoya, rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur notre site internet voaafrique.com. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebulia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.